D'abord, il n'est pas sûr qu'il va se tenir. Je vous assure qu'il y a des inquiétudes. Ceux qui sont censés participer à ce premier congrès pour la démocratie à Cuba, c'est ainsi qu'on l'appelle, sont inquiétés par la police. Ils font état de menaces d'emprisonnement. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'interdiction formelle de ce congrès, mais il faudra attendre jusqu'à son ouverture pour voir comment les choses vont se passer.
Alors, je crois que vous avez pu vous entretenir avec Marta Beatriz Roque, qui est la principale organisatrice de ce congrès, qui elle-même avait été incarcérée en 2003 avec les 75 autres figures de la dissidence et qui a été libérée pour raison de santé. Qu'est-ce qu'elle vous en a dit ?
Eh bien, d'abord, elle m'a précisé l'objectif principal du congrès, développer la société civile pour mener à Cuba une transition sociale, transition qui existe mais qui se déroule de forme lente et spontanée. Et nous voudrions, dit-elle, que cette transition se fasse de manière organisée et orientée. En fait, il s'agit de fédérer la dissidence qui est très dispersée à Cuba et c'est une tâche très difficile.
D'autant que malgré quelques libérations, je crois qu'il y a encore de très nombreux prisonniers politiques.
Les principaux dissidents disent qu'il y a plus de 300 prisonniers politiques encore en prison à Cuba. Lors de ce qu'on avait appelé le printemps noir en 2003, on avait arrêté 75 dissidents, ça avait fait beaucoup de bruit, et 14 ont été libérés, mais uniquement, semble-t-il, pour raison de santé, car les 14 libérés vraiment avaient une santé fragile.
Vous parlez de ces libérations, elles ont joué dans les relations entre Cuba et l'Union européenne. Vous dites même que les prisonniers politiques sont en quelque sorte devenus une monnaie d'échange pour Fidel Castro.
En échange d'une normalisation avec l'Union européenne et surtout en échange d'un espoir d'adhérer à l'accord de Cotonou. Et ça serait important pour Cuba parce que ça lui permettrait d'avoir des relations commerciales privilégiées avec l'Union européenne. En échange de cela, eh bien, il en libère 14 sur les 60 ou sur les 300 qui sont encore en prison. Voilà, c'est en ce sens qu'on a l'impression que les dissidents libérés au compte-gouttes servent de monnaie d'échange au profit de Fidel Castro.
Qu'en est-il du projet Varela d'abord ? Est-ce que vous pouvez rappeler de quoi il s'agissait ? Et puis aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ?
Oui, le projet Varela a été développé par un catholique dissident, Osvaldo Paya. Vous savez que la constitution cubaine admet qu'il puisse y avoir un référendum, disons, à l'instigation des citoyens, si ce référendum est appuyé par plus de 10 000 signatures. Eh bien, Osvaldo Paya, par deux fois, a déposé plus de 10 000 signatures au Parlement cubain pour demander qu'effectivement, on organise un référendum sur la démocratisation de Cuba. Ces signatures ont été complètement ignorées. Et il n'y a, à mon sens, aucune suite à cela. Et il faut dire que Marta Beatriz Roque, qui organise donc ce premier congrès pour la démocratie à Cuba, elle a invité Osvaldo Paya. Il a dit qu'il ne viendrait pas. Disons que leur manque d'entente est vraiment symbolique de la grande division de la dissidence à Cuba. Et c'est ce qui fait, évidemment, le jeu de Fidel Castro.
Une petite conclusion, peut-être sous forme d'ouverture. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir ? Et surtout, est-ce que concrètement, on peut attendre quelque chose de ce congrès ?
Il faudra d'abord que ce congrès ait vraiment lieu. Des députés français qui avaient demandé de pouvoir y participer comme observateurs n'ont pas reçu de visa de l'ambassade cubaine à Paris. Deux eurodéputés polonais ont été refoulés d'un aéroport touristique où ils étaient arrivés avant-hier. Ils voulaient aussi assister à ce congrès. Donc, avant de tirer des conclusions, voyons d'abord s'il peut vraiment avoir lieu. Et je crois que ça serait ça l'important. Et ça, vraiment, ça pourrait éventuellement faire croire qu'il y a un début d'ouverture de la part du régime cubain.